bienvenue sur Radio Galère au 88.4 dans l'émission « Et si on s'écoutait ?». Nous sommes le mercredi 28 janvier 2026. Nous sommes en direct de 20h à 21h et le replay sera disponible d'ici quelques jours sur le site internet de Radio Galère. Dans cette émission, nous recevons des invités qui, par leur parcours de vie ou leur engagement, explorent ce que signifie vraiment « écouter ». Qu'il s'agisse d'une expérience intime ou d'une action tournée vers les autres. Chaque voix ici éclaire une facette de cette qualité si précieuse et pourtant si rare, l'écoute. Des scènes culturelles, au terrain de sport, en passant par les cercles associatifs ou les ateliers artistiques, nous recevons des invités pour qui l'écoute est bien plus qu'une posture. C'est une boussole, un moteur, une manière d'habiter le monde. À travers leurs récits, nous cherchons à comprendre comment se crée le dialogue, comment on construit le lien, comment on cohabite dans une société traversée par des désirs multiples. Car s'écouter, ce n'est pas seulement entendre, c'est accueillir, créer de l'espace, tisser du commun. Et parfois, cet espace naît d'une chanson, d'un geste, d'un silence, d'un regard. Alors prenons ce temps. Et si, pour une fois, on s'écoutait vraiment ? Je suis Marion Milsan et avec Chloé Lenders, nous animons cette émission une fois par mois avec Sidi en régie. Bonsoir Chloé, bonsoir Sidi.
Bonsoir.
Bonsoir.
Comment ça va ?
Ça va bien.
Et toi Sidi ?
Ça va, ça va.
Au top. Ce soir, pour notre première émission, et si on s'écoutait de l'année 2026, nous tendons le micro à Alice Gabet, qui est chargée de l'entrepreneuriat culturel et de la formation à l'AMI, l'aide aux musiques innovatrices.
Bonsoir et merci à Radio Galère de nous accueillir dans vos beaux studios que je découvre en direct.
Ravie.
Alors pour toi Alice, qu'est-ce que ça évoque pour toi le titre de notre émission « Et si on s'écoutait ?» C'est la question qu'on pose à chacun de nos invités.
Pour moi, « Et si on s'écoutait ?» ça me fait penser tout de suite à quelque chose de collectif et de partager, aussi dans un avantage d'être dans un petit écrin entre nous. Et c'est vrai, d'ailleurs, comme tu l'as souligné au début dans ton introduction, Marion, mais je pense tout de suite une opposition avec le mot entendre par opposition à écouter. Ou pour moi, c'est vrai que entendre, ça va être plus de l'ordre de la captation sonore, donc là tout de suite une déformation professionnelle en pensant à de la musique. Mais ou même de la captation de paroles et de voix et d'histoire. Là où s'écouter, ça va être vraiment pour moi quelque chose de l'ordre de l'écoute active et en tout cas de aussi essayer de chercher à comprendre l'autre pour être sûr de bien l'écouter.
Merci beaucoup. Alors l'aide aux musiques innovatrices, c'est donc une association marseillaise qui existe depuis maintenant 40 ans, qui accompagne et soutient les artistes, musiciens, musiciennes, entrepreneurs du secteur culturel. Elle œuvre pour encourager la créativité culturelle et artistique, la professionnalisation des projets et renforcer les liens entre artistes et public. À l'origine, l'AMI naît autour d'un festival devenu mythique, le MIMI, mouvement international des musiques innovatrices qui se tenait sur les îles du Frioul jusqu'à sa dernière édition en 2018. L'AMI s'installe à La Friche dès sa création il y a 34 ans. À cette époque, son fondateur, Ferdinand Richard, est sollicité pour définir l'axe musical du lieu, une orientation qui marque encore La Friche aujourd'hui. L'AMI propose un vaste panel d'activités, mais je ne dirai pas tout, promis. Je laisserai Alice en parler. Mais donc, il y a des formations et des ateliers, il y a des dispositifs d'accompagnement de carrière, il y a des espaces de coworking, de studio, et il y a l'organisation d'événements musicaux et des festivals. L'AMI est donc à la fois un tremplin pour les artistes émergents, un support pour les projets audacieux et un lieu de créativité collective. Avant toute chose, Alice, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours et de comment tu t'es retrouvée à travailler à l'AMI ?
Tout à fait. Déjà, bravo pour la description qui est des fois pas facile à synthétiser. Donc, bravo pour ça. Et effectivement, moi, du coup, je viens plutôt d'un endroit qui paraît plus incongru avec comment je suis arrivée là aujourd'hui à l'AMI. Moi, je viens vraiment de la partie, on va dire, plus obscure, plutôt du monde de la finance, de l'économie, de l'entrepreneuriat, où j'ai été formée aussi au aux techniques d'innovation pour venir repenser des problèmes sous un nouvel angle et trouver des solutions. Et très vite, après avoir bossé pour des grands groupes, plutôt comme M6 ou la Banque de France, j'ai fait comme beaucoup de monde, je me suis questionnée sur vraiment les valeurs de ce que je faisais, est-ce que c'était en harmonie avec mes valeurs plus internes, et ça m'a porté un petit peu petit à petit à mener ma barque vers une autre rive qui faisait plus de sens, en tout cas pour moi, plutôt vers du conseil dans le monde de l'économie sociale et solidaire tout d'abord. Et après j'ai moi-même une pratique culturelle à côté, plutôt avec la danse, et du coup j'ai voulu très vite un peu rejoindre les deux ponts et les deux rives qui faisaient sens pour moi, parce que y a souvent un petit peu quelque chose qui est mis à l'écart de la culture, voilà, qui des fois est écarté volontairement du milieu plus économique, alors pour moi c'est aussi un lieu où il y a beaucoup d'innovation et de créativité, et les deux peuvent s'apporter, en tout cas quand c'est fait vers le bon sens. Et c'est pour ça que c'est comme ça que je suis arrivée du coup à l'AMI. Pour moi c'était un bel alignement de planètes, parce que ça me permettait de aligner ces deux côtés là puisque je vais notamment travailler sur l'incubateur spécialisé dans les entreprises culturelles, les industries culturelles et créatives, et aider justement ces créateurs, que ce soit des créateurs d'entreprises, et à côté sur le vote volet, bon, on y reviendra, sur l'aide à la professionnalisation des artistes, mais c'est en tout cas comment justement on rend moins opaque ce monde-là, et comment ça peut leur servir dans le développement d'une structure ou d'un projet artistique. Donc c'était un bel alignement des planètes de récupérer, de faire relier les deux bouts.
Et tu t'y sens bien à la vie?
Bah je fais je sais plus si on dit encore un big up.
Non mais si, si.
Un big up à toute mon équipe. Non mais c'est un projet qui est très fort. On est une petite équipe de 6. Mais pour beaucoup d'activités, comme tu as commencé à le décrire, et on y reviendra dessus, et je pense que c'est parce qu'on est toutes et tous, comme on est en majorité des femmes, portées par des mêmes valeurs et des objectifs assez aussi ambitieux, et vraiment d'accompagner toute cette créativité et cette innovation pour des projets qui forment aussi, qui contribuent à former en tout cas le monde de la culture de demain. Et donc c'est vrai qu'on est une super équipe, et ça fait plaisir d'alterner aussi des moments, on va dire, plus de bureau où par exemple j'anime des formations, où j'aide sur la compta, la gestion financière, le plan de communication, et en même temps où on va se retrouver dans le cadre notamment de sur toute notre partie d'activité qui est la diffusion, et notamment nos festivals qui rythment toute notre année. Du coup c'est des moments où on va se retrouver un peu tous ensemble à servir des bières, à faire l'entrée billetterie, donc c'est des moments assez chouettes de connexion.
Et justement, dans ce collectif, toi, quel est ton rôle exactement dans cette équipe ?
Tout à fait. Alors, avant de commencer par moi, je vais commencer par les autres. parce que c'est vrai que on est une équipe où il y a les métiers qu'on peut trouver dans les structures, les organisations culturelles classiques, on va dire, avec toute la partie direction artistique incarnée par notre directrice Élodie Lebreu, la partie administration, production, accueil dans les studios de répétition, la partie communication, médiation, action culturelle. Et à côté, moi je m'occupe notamment avec Lucie qui est la directrice pédagogique de l'AMI, nous on va s'occuper de la partie formation et accompagnement, que ce soit des artistes ou des entrepreneurs. Et notamment, on a un objet qu'on retrouve pas pour le coup dans les autres organisations culturelles, qui en fait aussi un projet tout à fait singulier et innovant. Ça va être vraiment l'incubateur spécialisé dans les industries culturelles et créatives, puisque normalement on retrouve classiquement des incubateurs généralistes ou spécialisés par exemple dans l'économie sociale et solidaire ou d'autres, mais c'est vrai que c'est plus rare spécialisé culture. On était d'ailleurs le premier, créé en 2008. Depuis, il y en a d'autres en France.
Big up.
Et avant que tu nous décrives un petit peu donc l'ami, hein, bien sûr, vous êtes basé à la Friche Belle de Mai. Pour les auditeurs auditrices qui nous écoutent à Marseille, vous connaissez ce lieu culturel incroyable, cette ancienne fabrique de tabac, qui est un lieu incroyable à Marseille. Pour les auditeurs qui connaissent moins, peut-être tu peux nous le décrire, parce que l'émission radio, elle se passe à Radio Galère et c'est aussi à la Friche Belle de Mai. Qu'est-ce que ça apporte aussi que votre collectif soit aussi basé dans cet endroit, qu'est-ce que ça apporte?
Déjà, c'est sûr que c'est une partie importante aussi de l'histoire de l'AMI, puisque l'AMI, donc qui a 40 ans, comme tu l'as dit Marion en introduction, mais qui est depuis la création une des structures fondatrices de la Friche, qui s'est construite maintenant il y a plus de 30 ans, c'est aussi là-dedans que a continué de se développer les activités de l'AMI et qui sont vraiment très entrelacées forcément avec le projet de la Friche La Belle de Mai, puisqu'on était venu chercher le fondateur de l'AMI, Ferdinand Richard, justement sur la partie développement avec le cahier des charges sur la partie musique. Donc forcément notre histoire est très liée et on va dire que on a toujours été très tourné vers justement la coopération dans l'écosystème, qui est une partie importante. Ouais, on collabore avec de nombreuses structures, mais on pourra aussi en parler après, justement un petit peu dans nos actualités qui nous concernent. Et aussi c'est un point très important de notre activité, puisque c'est dans ce lieu qui est le cœur névralgique, quand même un des cœurs névralgiques de la culture à Marseille, où beaucoup de possibles se font et beaucoup de choses se passent. C'est là-dedans qu'on a nos 6 studios de répétition à destination des artistes, musiciens et musiciennes, ce qui nous permet forcément de faire notamment du repérage et d'alimenter cette créativité en lien avec les autres structures qui sont résidentes à la Friche. Et ça va être aussi, donc forcément pour les artistes dans leur développement de carrière, ça va être un point important que nous-mêmes soyons situés à la Friche. Quand on va faire nos formations, notre accompagnement, on met le plus possible en lien avec les autres, nos partenaires qui sont situés aussi dans l'écosystème. Et aussi, ça va être là où se situe toute notre couveuse d'entreprise des industries culturelles et créatives, où on a toute la partie incubateur, parcours de formation, où justement ce qui va être intéressant, c'est de venir connecter ces projets entrepreneuriaux qui vont trouver des futurs fournisseurs, des futurs clients, ou donner du sens à leurs projets en lien avec les besoins et les enjeux qui se situent aussi ici à la Friche La Belle de Mai. Et on va venir aussi les accueillir en fait dans nos bureaux, puisqu'on fait de l'hébergement de 10 à 12 entrepreneuses et entrepreneurs qui sont nous-mêmes nos colocataires dans les bureaux. Et cet écrin justement d'être situé à la Friche, ça va venir aussi alimenter leurs projets et donner forcément des opportunités et de la visibilité. Donc
ouais, c'est un lieu de rencontre important à Marseille, hein.
Tout à fait, c'est un lieu de rencontre, c'est là où beaucoup de choses se font, à la fois, j'ai envie de dire, dans le cadre professionnel, mais aussi forcément là côté. On n'est pas sans savoir que beaucoup de contrats se signent aussi autour d'un bar, des grandes tables, mais beaucoup de choses en tout cas c'est sûr que se font, et c'est important d'être dans un projet comme celui de la Friche et d'être impliqué dans la coopération, d'autant plus que je pense que c'est vraiment quelque chose dont on peut pas se passer, qui va vraiment venir renforcer tous nos projets individuels, justement grâce au collectif. Vu le contexte économique et politique actuel, je pense qu'on peut pas faire sans la coopération, et c'est sûr que c'est un grand enjeu.
Mais c'est là où on se rend compte en fait que l'importance des locaux, en fait, du lieu géographique aussi où on se situe, aide quand même la mise en lien et justement ce tissage un petit peu des relations qui peuvent se faire autour d'un verre, par exemple, mais aussi c'est la porte à côté, on toque, on rencontre les voisins et on crée aussi des projets ensemble. Tu vas nous en parler, parce que en fait l'AMI, en fait, quand on se penche un peu dessus, c'est vraiment, vous avez énormément d'activités, énormément de domaines dans lesquels vous agissez, et on peut s'y perdre parfois. Donc c'est comme, enfin, je suis vraiment très contente, on est très contente avec Chloé de pouvoir un petit peu mettre ça en lumière. Et d'ailleurs, je me demandais si tu avais quand même un ordre un petit peu par lequel tu as envie de commencer. Alors moi, spontanément, j'irais vers les parcours de formation. Mais peut-être qu'on peut un petit peu parler avant des festivals peut-être que vous mettez en lien chaque année.
Tout à fait, c'est vrai que pour moi, ça me paraît logique aussi de commencer par les festivals et comment justement on est venu à constater des enjeux territoires très locaux et comment la formation et l'accompagnement dans un deuxième temps sont venus renforcer et contribuer en tout cas au développement locaux des artistes et des entrepreneurs. Donc effectivement, c'est surtout que l'AMI, ça s'est quand même créé en grande partie autour d'un festival. C'est pour ça que je trouve ça intéressant de partir de ce point-là. Le Mimi Festival, effectivement, qui était un festival de grande ampleur, puisqu'il avait lieu sur les îles du Frioul, avec beaucoup d'artistes aussi internationaux, et un festival dédié aux musiques, on va dire, plus alternatives et de niche, qu'on n'a pas l'occasion forcément d'entendre ailleurs. Donc voilà, c'était un projet aussi très singulier, qui a permis aussi de faire connaître aussi notamment l'AMI. Du coup, le festival a eu lieu pour la dernière fois en 2018, la dernière édition. Alors la dernière édition était à la Cité des Arts de la Rue, pour le coup, mais toutes celles d'avant avaient lieu sur les îles du Frioul. Et après, pour des questions évidemment d'évolution, de mutation du secteur culturel, des enjeux de décroissance aussi, qui étaient importants, pour toutes ces raisons aussi, le projet s'est transformé et s'est renouvelé. Et aujourd'hui, on pourrait dire, Élodie des fois Lebreu, la directrice, en parle comme ça, que le festival Geste Jamais 200 Toits est aussi quelque part le petit frère, la petite sœur de ce festival Mimi, puisque c'est aussi un festival dédié aux musiques un petit peu alternatives, de niche pluridisciplinaire. C'est un peu dur de le décrire parce que c'est un peu les musiques qu'on peut pas mettre dans les cases, justement. on peut pas les enfermer dans un vocabulaire.
Dans un style, ouais.
Tout à fait. Et du coup, ces festivals qui sont aussi une vitrine de toutes les autres activités de l'AMI à 360, aussi de l'accompagnement et de la coopération avec des partenariats très locaux, que ce soit la Friche Label de Mai, à la Cité de la Musique, au Théâtre de l'Œuvre, etc., ou à l'Embobineuse, dans plein de lieux un peu emblématiques de Marseille. Et en fait, à partir de ce festival, s'est développée toute la partie accompagnement pour aider à la professionnalisation des artistes musiciens et musiciennes du territoire, parce qu'on s'est rendu compte que il y avait beaucoup d'artistes qui partaient, et pour éviter un petit peu cette fuite des cerveaux vers Paris, justement, il était essentiel de les aider à se développer ici à Marseille. Et c'est comme ça que du coup s'est construit l'activité de formation et d'accompagnement des artistes, de la création jusqu'à la diffusion. Je pourrais en parler peut-être après des parcours plus spécifiques. Et force est de constater, suite à ce développement, cet accompagnement des artistes, que en fait il suffisait pas d'accompagner seulement les artistes pour les aider à se développer, parce que il restait pas forcément, si derrière il n'y avait pas tout le maillage culturel que sont par exemple une attachée de presse, une salle de diffusion, une salle de concert, un label de musique, une société de production, une agence de tournée, etc. Et du coup, qu'il fallait aussi venir et accompagner le développement et la professionnalisation des métiers autour de l'artiste. Et c'est comme ça que s'est développée du coup cette activité en 2008, avec la création du premier incubateur d'entreprises culturelles, où là-dessus, pour le coup, on est venu aussi répondre à des besoins dans les autres secteurs culturels, puisqu'on accompagne des projets musicaux. Forcément, on en a beaucoup de par notre nom Aide aux Musiques Innovatrices, mais on a aussi des projets cinéma, art visuel, design, spectacle vivant.
Aussi.
Tout à fait, la danse dans le spectacle vivant rentre tout à fait. Et c'est comme ça que s'est développé tout l'incubateur, avec donc de la formation, des programmes d'incubation et le coworking.
Oui, parce que vous êtes aussi espace de coworking. Pour qu'on s'imagine, c'est quelle surface le coworking c'est
Alors, je suis extrêmement
grand,
nulle
je crois
en mètres carrés.
300 mètres carrés, je crois. Sur votre site internet, c'était quand même des bureaux.
Je crois que c'est tous les bureaux, 300 mètres carrés. Et on doit avoir la moitié
qui est dédiée
à l'hébergement d'entrepreneurs. C'est vrai que j'ai dit le mot coworking. Des fois, on fait quand même attention à le dire. Parce que coworking, on pense tout de suite à la location un peu à l'heure, assez chère, au même titre que les studios de répétition pour les artistes.
Oui,
l'espace est pensé comme un outil d'accompagnement sur le développement des entreprises qui restent de 1 à 3 ans, parce qu'après on estime qu'elles sont suffisamment développées pour voler leurs propres ailes. Et on est vraiment sûr de... c'est très peu cher la mise à disposition pour leur donner cet espace de se développer, de se professionnaliser, parce que comme vous l'avez dit, les lieux et le bâti est forcément important dans la construction d'un projet et avant tout de sortir de chez soi et de son salon.
Mais justement, vous parlez de résidence d'artiste et non pas de location. Et je me demandais, du coup, qu'est-ce que ça change concrètement pour les artistes d'être un temps de résidence et non de location?
Tout à fait, c'est très juste quand on pense à de la location, que ce soit d'espace de répétition ou d'enregistrement, ou de studio d'enregistrement, souvent ça marche à l'heure, à la demi-journée ou à la journée, que nous vraiment les studios de répétition, ils sont pensés sur le temps long, ou à moitié long parce que c'est une semaine, mais voilà, on les accueille le lundi dans les studios, on leur donne les clés, ils sont totalement autonomes, faut le savoir, ils ont leurs propres clés, et ils peuvent venir de 8h à 23h sur les horaires de la friche, tout simplement pour avoir le temps justement de développer leur création, et vraiment de se laisser de la marge de pause, de respiration, pas d'être oppressé et stressé par un temps, on va dire, court de un jour où on va forcément tout de suite pousser vers la performance et la rapidité, que là on a le temps de se nourrir et voilà, on a une semaine, ils ont une semaine en tout cas de résidence, et ce qui nous permet effectivement d'accueillir 130 groupes, ce qui représente plus de 300 artistes par an. Donc,
c'est énorme.
Ouais, c'est énorme.
C'est énorme, ouais. Parce qu'on a 6 studios. Donc,
et 250 artistes, c'est ça à peu près que vous aviez.
Tout à fait.
Ouais.
C'est ça, puisque chaque semaine, on accueille dans les 6 studios. Donc, multiplié par 6.
J'ai trop envie de rebondir. Justement, ça va être une émission qui change un petit peu de format, car c'est pas n'importe qui qu'on interroge, et ça serait vraiment dommage de passer à côté de toutes ces découvertes musicales qui peut y avoir. Est-ce que ça serait peut-être le temps de faire une petite interlude de musique, et est-ce que tu peux nous raconter la première musique qu'on va écouter, cette anecdote qui est née en studio, il me semble bien?
Tout à fait, on adore les petites anecdotes qui cachent derrière les musiques. La musique qu'on va écouter, elle est de l'artiste palestinien Sarv et de l'artiste algérien Moustrous Nam. Et en fait, ces deux artistes se sont rencontrés quand ils étaient en résidence à l'AMI, puisqu'ils étaient après programmés sur notre festival Jamais 200 Toi, l'édition de 2024. Et en fait, ils ont pu se rencontrer dans les studios, et de par cette rencontre, est née cette musique qui est le fruit de leur collaboration, puisque il faut savoir que quand les artistes viennent en résidence dans le cadre des festivals, et grâce aux coopérations aussi internationales forcément avec les instituts français notamment. Ils résident aussi en plus, notamment à la friche, à la Villa des Auteurs, ce qui permet de faire naître aussi des temps de rencontre. Ils vivent comme une petite coloc. Et du coup, de cette rencontre, en tout cas, est née justement cette collaboration Lablabli. Je m'excuse pour l'accent. Je veux pas dire de bêtises.
C'est dit, à toi les studios. merci beaucoup pour cette musique que vous pourrez retrouver. On donnera un petit peu en lien le nom des artistes et le lien des vidéos pour savoir. Donc du coup, bon, on a quand même parlé un petit peu des accompagnements. Est-ce que, donc justement, vous êtes rendu compte, suite à tous ces festivals, justement, qu'il y avait besoin d'accompagner des artistes, parce qu'il y avait peut-être des compétences qui étaient peu valorisées ou peu reconnues, et ou alors, justement, tu disais qu'il y avait un petit peu une fuite des talents, en fait, dans des endroits où peut-être il y avait plus d'opportunités. Pourquoi vous avez créé ces parcours et comment, justement, vous avez fait en sorte que ces parcours puissent répondre à tous ces besoins dont les artistes avaient besoin?
Tout à fait. C'est cette création des parcours d'accompagnement, justement pour rebondir avec le titre de l'émission, c'est fait à l'écoute du besoin des territoires, mais aussi des artistes. Il y a une dualité entre le fait que l'artiste se lance en tant qu'artiste parce que justement il est motivé par sa création et parce que voilà, c'est ce qui les forcément les intéresse et vraiment leur création, mais forcément en dehors de la création il y a des on leur impose, enfin c'est ils sont de plus en plus contraints à aussi passer du temps ailleurs, notamment sur des enjeux de visibilisation, notamment avec la stratégie de communication. On pense notamment aux réseaux sociaux et pas que, puisque ça évolue très vite dans ce domaine-là, mais aussi en tant qu'artiste, comment je vais me rémunérer, comment je vais protéger mes droits d'auteur, comment je vais passer sous le régime de l'intermittence ou bien du statut d'artiste-auteur, comment je vais faire mon budget, comment je vais faire ma technique, comment je vais m'autoproduire, comment je vais sonoriser un concert. Tant de questions qui forcément auxquelles au début ils sont pas formés, soit quand on sort d'un conservatoire, d'une école de musique, ou quand on on est artiste autodidacte. Donc forcément il y a un besoin parce que malheureusement c'est une partie qui peut pas être enlevée de la partie artistique, surtout quand on commence et qu'on est en début de carrière. Donc on a vu ce constat-là de par les artistes où ils avaient besoin de monter en compétence sur ces parties-là qui est de l'ordre de autour de la partie artistique, mais vraiment des parties annexes, administratives, techniques, communication. Et en même temps, on a vu qu'il y avait un besoin du territoire d'avoir des artistes qui soient aussi polycompétents et notamment qui puissent justement s'adapter aussi à d'autres activités et qui puissent même intégrer d'autres sujets de par les évolutions sociétales et environnementales actuelles. Par exemple, comment on produit différemment en prenant en compte les enjeux des transitions environnementales, mais aussi
du numérique avec l'IA aussi.
Tout à fait. Comment on prend en compte les transitions numériques à l'ère de l'IA, de la protection aussi de ces œuvres qu'on défend forcément nous très fort à l'AMI, et aussi même qui peut être une opportunité des fois sur justement de notamment la partie plus réseaux sociaux ou qui peut permettre du gain de temps. Mais en tout cas c'est sûr que on était obligé d'être à l'écoute des besoins du territoire qui avait besoin d'aider cette montée en compétences là et cette professionnalisation là de part de toujours plus de contraintes ou de d'évolution, en tout cas de mutation du secteur culturel dont on peut pas faire l'impasse.
Et tu parles beaucoup de territoire. Vous avez eu l'impression que notre territoire ici à Marseille, dans le sud, avait un besoin de plus de structuration par rapport à d'autres territoires où les artistes avaient plus de besoins, ou c'était quoi votre constat par rapport à ce territoire justement ?
Je pense que c'est quand même un constat qui est partagé évidemment à l'échelle de d'autres territoires en dehors de la région parisienne forcément, qui bon là aussi vont avoir d'autres enjeux comme justement la visibilisation et comment on ressort face à beaucoup de propositions artistiques. Donc effectivement le fait de se professionnaliser au niveau de l'artiste mais aussi par rapport aux métiers qui sont autour de l'artiste, ça va être des besoins qu'on retrouve dans d'autres territoires. Mais à Marseille, c'est vrai que quelquefois on peut être sous-doté encore, par exemple au niveau des salles de diffusion, des salles notamment de moyenne jauge, ou à l'inverse directement des salles à grande jauge. Donc c'est vrai que il y a des besoins aussi à ce niveau-là, et encore des fois de structures sous-représentées dans certains domaines. Donc,
ouais, en fait, ça ne cesse d'évoluer tout le temps. Et en fait, j'imagine que toutes justement ces transitions, qu'elles soient numériques, écologiques, sociales, elles transforment vous aussi vos manières de travailler. Et que j'imagine que
d'accompagner, ouais.
Ouais, c'est ça. En fait, t'accompagnes quelqu'un il y a 10 ans, c'est pas du tout la même chose maintenant. Et les artistes aussi, à mon avis, sont face à des préoccupations et des problématiques qu'il n'y avait pas du tout il y a peut-être 15 ans de ça, quoi.
Tout à fait, vraiment c'est ce qui est assez fort aussi, ce qui est intéressant et pourquoi j'aime beaucoup mon métier, c'est parce qu'on est obligé tout le temps de se renouveler, nous-mêmes d'ajuster nos contenus, ce qui était vrai avant ne l'est plus forcément maintenant, ça va effectivement très vite les changements et à deux endroits effectivement l'artiste, comment il était avant, il ou elle, c'est vrai que maintenant ils vont avoir vraiment plus un profil de artiste entrepreneur, aussi on les appelle beaucoup dans le jargon les slashers, mais ça va être l'artiste qui crée, fait de la création sonore, qui fait à côté des ateliers de médiation avec des écoles, qui fait à côté des prestats de conseils d'accompagnement pour les autres artistes. Voilà, ça va être des artistes qui ont différentes activités, une pluriactivité, mais aussi différents statuts, qui va demander forcément une gestion administrative plus robuste, des fois de jongler entre le régime de l'intermittence, le statut d'artiste-auteur, et des fois pour certains même des statuts plutôt liés à l'entrepreneuriat. Donc forcément ils évoluent et on doit les outiller là-dedans.
C'est vrai que c'est un secteur aussi qui est très connecté aux enjeux de la société, du gouvernement, de ce qui est réformé ou pas. On sait que la culture, ça a été un gros sujet depuis quelques temps et ça l'est toujours, et c'est vrai que c'est aussi en lien avec toutes ces évolutions qui sont faites, des décisions.
Comme si t'étais obligée d'avoir 1000 casquettes, quoi. Vous êtes là pour ça, en fait.
Au final. Ouais, de les outiller, ouais. De naviguer, mais tout en gardant quand même, ne pas oubliant ce qui les motive et pourquoi ils ont commencé quand même avant tout à être artistes. Et aussi, on le voit beaucoup à l'endroit, justement, de l'incubateur. Des projets entrepreneuriaux où vraiment on va accompagner aussi des projets qui vont vraiment permettre aussi créer de l'innovation dans la culture et un peu contribuer au monde de la culture de demain qui change très vite. Et là où avant on accompagnait des projets avec certains modèles économiques qui reposaient notamment aussi beaucoup sur le financement public, et tant mieux parce que dans la culture on a beaucoup de structures qui relèvent de l'intérêt général et on le défend évidemment, mais forcément en plus des mutations sociales, environnementales et numériques, faut vraiment prendre en compte les transformations et les mutations économiques et vraiment qui vont impacter la manière de faire des projets et les modèles économiques, où on doit réfléchir à des modèles plus robustes forcément, et on va dire plus hybrides et diversifiés, qui prennent aussi en compte les enjeux sociétaux et environnementaux.
Parce que donc du coup il y a le parcours de formation Beyond, tu peux nous en parler si tu veux, et il me semble que vous en avez aussi un autre bientôt en cours, je ne sais pas si on peut en parler. Bon, je te laisse nous présenter tout ça.
Si vous restez jusqu'à la fin de l'émission, vous aurez une exclue en live.
Surprise.
Effectivement, on a un parcours Beyond, qui est un parcours d'accompagnement de la création à la diffusion pour les artistes musiciens et musiciennes. Et c'est vraiment un parcours sur le temps long qui dure 9 mois et qui est vraiment adressé aux artistes des esthétiques, justement, encore une fois, qu'on peut pas mettre dans les cases, puisqu'il existe plein d'autres tremplins, et tant mieux sur le territoire, mais on va dire des tremplins d'esthétiques spécifiques, qui soient plutôt, par exemple, les musiques urbaines, les musiques électroniques, les musiques, on va dire, plus pop ou rock, que là, nous, du coup, on veut soutenir des projets qui sont pas forcément soutenus ailleurs ou pas forcément entendus, justement. Et ça va être des projets, on va dire, plus risqués sur la création, forcément, parce que avec des voilà, de soit hybride, avec de la musique qui mélange aussi d'autres médiums, soit voilà un petit peu des mélanges esthétiques qui mêlent différentes esthétiques. Et du coup, ces projets-là, on va en accompagner 3 à 4 projets par an, où vraiment, en fait, on va leur permettre d'avoir ce temps de travailler une nouvelle création, puisqu'on va notamment leur rémunérer, j'insiste sur le mot, parce qu'on en trouve de moins en moins de programmes là-dessus, mais on va leur offrir des temps de résidence rémunérés, 3 semaines pour développer justement cette création, adosser tout ça à un parcours de formation sur justement c'est quoi les différents statuts dans l'entrepreneuriat, la question de l'éducation artistique et culturelle, la question de la communication, etc. Pour arriver à la fin à justement un temps de diffusion dans le cadre de notre festival Jamais 200 voix qui a lieu au mois de novembre, la dernière quinzaine de novembre chaque année, où vraiment ils vont pouvoir donner à voir leur travail au même titre qu'ils sont entourés d'une programmation avec des artistes plus reconnus. Donc c'est une véritable aussi opportunité pour eux.
De diffusion, oui. De mise en lumière.
Parce que dans le public, enfin forcément il y a des maisons de disques, on imagine,
des éditeurs comme nous, quoi, en fait, ouais. Tu vois, et qui allons les suivre.
Tout à fait, bah c'est une opportunité pro pour des futurs labels, agences de tournée, puisque forcément de par nos activités, on a cet écosystème là dans notre communauté, contribue aussi notamment à former, donc ça favorise des belles rencontres et des belles collaborations. On a pas mal d'histoires.
Est-ce que ce serait pas le moment de nous faire écouter justement une musique qui a découlé d'un de ces parcours de formation?
Tout à fait. Alors c'est un duo de 2 artistes. Le duo s'appelle Emen et Elle. Et c'est 2 artistes qu'on a accompagnés là sur la dernière promotion du parcours Beyond et qui sont produits en novembre à Geste. Qui le présente comme un dialogue d'air de musique ancienne avec notamment aussi des textures électroniques avec du chant et de la voix. Dans cette musique là c'est plutôt de la musique sans chant, et on travaille notamment avec une des 2 artistes, Héloïse, sur justement des ateliers de médiation qui est un des piliers de l'activité de l'AMI, avec de l'éducation artistique et culturelle. Du coup, c'est Emen et Elle, l'Arche Saliva.
Thank you.
Merci beaucoup pour cette deuxième musique. On avait une question, c'est vrai que pour illustrer peut-être ces accompagnements, est-ce que tu peux nous parler d'un projet spécifique que vous accompagnez en ce moment, que vous venez d'accompagner? Et puis après, ça serait peut-être intéressant aussi que tu nous expliques comment vous sélectionnez ces artistes, parce qu'il y a beaucoup de talents sur le territoire. Comment vous sélectionnez ces artistes que vous allez accompagner et de quelle manière ils peuvent candidater?
Tout à fait. c'est la blague. Il lit des points si j'aime ça.
Tire lire un euro.
Je vais finir millionnaire à la fin. Autant parler du
projet
oui. Justement qu'on vient d'écouter. Donc il y a un projet développé par Manuel et Héloïse. Qui ont chacun aussi évolué et créé d'autres projets artistiques indépendamment avant et qui se sont rencontrés un petit peu aussi autour d'une affinité commune autour des musiques un petit peu plus anciennes, peut-être plus folkloriques, limite moyenâgeuses aussi, des inspirations un petit peu moyenâgeuses, et de comment on les mélange aussi à des esthétiques plutôt liées aux musiques électroniques, et comment les deux peuvent s'influencer. Voilà, une façon aussi plus moderne de reprendre des traditions plus anciennes. Ce projet aussi avait une volonté forte aussi de travailler justement un projet de médiation avec des cibles jeunes publics qu'on accompagne aussi sur des projets de médiation à l'AMI. Donc c'est l'intérêt de travailler aussi à deux voix, puisque ça va permettre d'être une source de, même pour eux, de diversification d'activités, et une autre source de revenus pour eux et une autre forme d'engagement, qui sont souvent des artistes très engagés dans ce qu'ils font et dans leurs valeurs. Et c'est notamment sur ce critère-là aussi qu'on va étudier les candidatures. Je sais pas si c'était ça ta question.
Si, ouais. Si, si. Tout ça fait bien le lien.
Tout à fait, parce que 2-0. dans les candidatures pour les artistes.
Parce qu'il y a peut-être des artistes qui souhaitent candidater. Si nous écoutent.
Tout à fait. Si vous nous écoutez, les prochaines, on va ouvrir la prochaine session de recrutement dans pas longtemps, plutôt en général courant février-mars. 2026, donc c'est dans pas longtemps. Justement, on étudie avant tout quelle est la création du projet, puisque comme vous l'avez compris, ce parcours Beyond est fortement relié à la diffusion qui intervient à la fin du parcours dans le cadre du festival Jamais 200 Toi, et donc forcément les artistes qu'on accompagne, il faut qu'ils s'inscrivent dans cette direction artistique là, voilà, de un peu en dehors des cases musique hybride et originale, qui est un des critères. Et également dans les critères, on va venir demander s'il y a des projets spécifiques, notamment aussi des envies de travailler avec des publics spécifiques avec de la médiation, et on va travailler des jeunes projets, effectivement, donc des projets qui restent émergents dans leur création, puisque sinon des projets déjà développés ont effectivement d'autres occasions de se produire et de se donner à voir. Et nous, forcément, en interne, on fait attention aussi à la parité quand on fait le choix de ces projets.
Et j'imagine que accompagner un projet, c'est aussi apprendre à écouter les fragilités, les doutes, les questionnements des artistes. Ça aussi, vous y êtes confronté. Donc, on revient un peu à l'écoute, mais comment justement vous accompagnez tout ça?
Bien sûr, c'est une bonne question, parce que effectivement, ce qui touche à l'accompagnement artistique est forcément aussi très lié à l'intime. Et au personnel, des fois, pour quelles raisons les artistes ont ce projet qui leur tient à cœur, ou voilà, ou qu'est-ce qui les motive, et en fonction des projets. Donc il y en a qui sont déjà produits en live, voilà, on est sur niveau d'émergence assez hétérogène, ça dépend des projets. Il y en a pour lesquels c'est la première fois qu'ils présentent cette création-là qui a émergé pendant le parcours. Et donc forcément, c'est l'idée qu'on défend, c'est aussi de défendre des esthétiques plus fragiles qui des fois n'auraient pas été forcément, auraient été plus difficiles, on va dire, à diffuser, que là on est à un certain niveau forcément dans leur étape de création, et c'est aussi des fois leur donner la chance d'évoluer, de laisser évoluer la création aussi après, qui ne cesse de s'arrêter. Mais du coup, c'est sûr que on doit aussi les accompagner, les préparer aussi à cette scène, à montrer leur création, aussi à se mettre des fois un peu plus à nu et d'avoir des retours, soit de l'équipe, de la direction artistique avec Elodie, ou soit aussi des fois avec des coachs ou des coachs scéniques ou autres, où on va venir aussi les accompagner sur ce volet-là. Donc forcément, ça demande des fois de se remettre un petit peu en question, ou en tout cas d'être à l'écoute des retours des autres, mais de pas oublier d'être à l'écoute de soi-même aussi avant tout, et de se faire confiance, pour pas se laisser aussi parasiter par nous-mêmes.
Ok. Et du coup, merci.
Attends. Il faut qu'on laisse
la place
dans le studio à notre émission d'impression.
On a le chrono qui passe comme ça. Est-ce que tu veux parler des actualités?
Oui, ça serait peut-être bien que tu nous parles de l'actualité de votre structure. Donc, il y a les ouvertures des candidatures là en février. Donc, c'est le mois prochain. Donc, ça, c'est une date quand même importante.
Février-mars.
Les autres dates importantes à venir?
Tout à fait. Alors, on a parlé des parcours de formation pour accompagner la professionnalisation des artistes. Et je vous lâche une exclue en avant-première. On a la chance de développer un nouveau parcours de formation à destination des artistes musiciens et musiciennes, mais aussi des créateurs de contenu, podcasts, vidéos, tout ce qu'ils font, les nouveaux médias, puisqu'on développe cette nouvelle formation en partenariat notamment avec Radio Grenouille et Culture Pixel, pour vraiment accompagner le développement des artistes sur la partie administrative, communication, technique et des transitions. Et du coup, retrouvez-nous si vous voulez en savoir plus et que vous êtes intéressé par ce programme le 2 mars au Petit Cap, puisqu'on fera le lancement et une réunion d'info à ce sujet.
On vous y retrouve. Ce soir, on a parlé de musique, de création, d'accompagnement, de transition, mais surtout, on a parlé d'écoute, finalement. De cette écoute qui permet aux artistes d'émerger, aux projets de grandir et aux liens de se tisser. Alors, merci à l'AMI pour ce que vous faites et la manière dont vous le faites, et merci Alice d'avoir été là et de nous avoir partagé tout ça. Prenez soin de vos oreilles, de vos silences et des voix qui comptent. On vous laisse sur cette question. Et si soutenir la création, c'était avant tout apprendre à mieux écouter. Bonne soirée à tous, et je te laisse introduire la troisième musique, justement, que vous avez pu accompagner.
Tout à fait. Déjà, merci pour l'invitation à toutes les deux. J'étais ravie. Et on va écouter Wael Koudé, alias Rayes Beck, qui est un des artistes pionniers du hip-hop libanais et qui sera justement programmé dans le cadre de la saison méditerranée qui sera présentée en automne à la Friche. Je vous laisse écouter.
Belle écoute et belle soirée.